Columbus dans l'Ohio, enfin dans ce studio avec moi, Lawal Dean Kosuro. Tout de suite, une nouvelle édition du journal. Au revoir.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 13 juillet 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. La communauté internationale appelle à la retenue au Mali après des violences qui ont fait 11 morts. En Côte d'Ivoire, démission du vice-président Daniel Kablan-Duncan. En République démocratique du Congo, nouvelle manifestation ce matin contre le choix du nouveau président de la commission électorale. Le chef de l'armée somalienne échappe à un attentat contre son convoi qui a fait un mort. Covid-19, près de 570 000 morts dans le monde. L'Afrique du Sud réimpose un couvre-feu après une recrudescence des cas d'infection. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Mali, le nouveau bilan des victimes est de 11 morts tués par balle devant la mosquée de l'imam Mahmoud Diko. La communauté internationale appelle au calme. La situation reste tendue à Bamako. Des pneus ont été brûlés et des barricades dressées et l'administration est paralysée. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
Le bilan des événements en cours à Bamako est de 11 morts et 124 blessés dans la mi-journée. Depuis le matin, la capitale malienne vit au ralenti. Les banques et établissements financiers ont tous fermé boutique pour raisons d'insécurité. Les jeunes continuent toujours de brûler les pneus sur les voies principales et dresser des barricades par endroits. À Badlabougou, des coups de feu ont été entendus ce matin vers la mosquée de l'imam Diko. Alors que le premier ministre Boubou Cissé avait été aperçu très tard dans la nuit d'hier chez l'imam Diko, même si rien n'a filtré de cette audience, tout porte à croire qu'il est venu supplier l'imam afin qu'il appelle les jeunes au calme. Même appel au calme du côté de la communauté internationale, qui doit rencontrer cet après-midi les responsables du M5-RFP afin de trouver des propositions de sortie de crise. Il faut signaler que le bilan de l'attaque contre la mosquée de l'imam Mahmoud Diko s'alourdit. Deux des blessés ont rendu l'âme ce matin. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Notre correspondant à Bamako nous a signalé la libération de Issa Kaoum Djim et de l'imam Oumar Diarra. Adama Diarra a été relâché cette nuit avec d'autres militants. Choguel Maïga, président du MPR, a également été libéré comme la plupart des militants. En Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan a démissionné de son poste de vice-président, a annoncé la présidence 5 jours après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Abdourahmane Dia.
Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a remis au président de la République sa démission pour des raisons de convenance personnelle le 27 février. Après plusieurs entretiens, dont le dernier a eu lieu le 7 juillet, le président Alassane Ouattara a pris acte et procédé le 8 juillet à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions de M. Kablan-Duncan, affirme un communiqué lu par Patrick Hachi. Les rumeurs de démission de M. Kablan-Duncan circulaient depuis plusieurs jours. Jusqu'à récemment, M. Kablan-Duncan était considéré comme un proche du président Ouattara, même s'il appartenait au Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Colombeillé, ex-allié de Ouattara, passé dans l'opposition en 2018. M. Kablan-Duncan a occupé successivement les postes de ministre des Affaires étrangères, puis de premier ministre cumulé avec le portefeuille de l'économie et des finances, avant de devenir le premier vice-président de l'histoire de Côte d'Ivoire en janvier 2017, un poste créé avec la nouvelle constitution de 2016. La démission de M. Kablan-Duncan survient alors que le premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé brusquement d'une crise cardiaque la semaine dernière. Les cérémonies d'hommage au premier ministre doivent commencer demain mardi avant son inhumation prévue vendredi.
La Côte d'Ivoire a créé une zone opérationnelle dans le nord du pays pour empêcher toute infiltration de groupes armés, a annoncé le gouvernement un mois après l'attaque djihadiste à Kafolo qui a fait 14 morts. La décision a été prise devant l'insécurité persistante aux frontières entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso du fait de la présence de groupes armés terroristes dans ces pays, indique le gouvernement ivoirien. Le Togo a sollicité l'expertise de la justice française dans l'enquête sur la mort d'un haut gradé de l'armée au lendemain de l'investiture du président Fournia Singbe, indiqué le ministre de la Sécurité. Le lieutenant-colonel Bitala Majulba, commandant du 1er bataillon d'intervention rapide, avait été retrouvé mort dans son bureau le 4 mai. Lomé a demandé l'aide de Paris dans le cadre de l'entraide pénale internationale, a dit le général Yark Dameham, qui dirige la commission d'enquête. Le député mauritanien Biramda Abeid a réclamé la mise en place rapide d'une haute cour de justice pour les anciens dirigeants, après que l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz ait ignoré la convocation d'une commission parlementaire. C'est un organe prévu par la Constitution, a déclaré l'opposant lors d'une conférence de presse à Nouakchott, déplorant les atermoiements des députés à la mettre en place. En République démocratique du Congo, des milliers de personnes se sont rassemblées ce matin à Kinshasa et dans d'autres villes pour protester contre le choix d'un nouveau président de la commission électorale, 4 jours après des affrontements qui ont fait 5 morts. Claire Morin-Gibourg.
À Kinshasa, les manifestants ont envahi le boulevard Lumumba en présence de Jean-Pierre Bemba, un des leaders de l'opposition. Les rassemblements ont été dispersés à Bukavu et à Kananga à coups de gaz lacrymogène. Les manifestants dénoncent le choix du futur président de la commission électorale nationale indépendante. Cette marche a été organisée par la principale coalition des partis d'opposition, la Lamuka. Elle a été reportée dans la deuxième ville du pays, Lubumbashi. Jeudi dernier, l'UDPS, le parti présidentiel, a organisé une manifestation. 2 personnes ont été tuées à Kinshasa et 3 à Lubumbashi, selon le bilan du ministre de l'Intérieur. Le président Félix Tshisekedi a indiqué qu'il peut comprendre ses réactions face aux irrégularités dans le choix du nouveau président de la commission électorale, mais qu'il condamne les violences. Une 3e marche est prévue dimanche à l'appel d'un collectif catholique et de mouvements citoyens. Les autorités justifient l'interdiction de ces marches par l'état d'urgence sanitaire face à la pandémie du Covid-19.
Un policier congolais a été condamné à la prison à perpétuité par un tribunal militaire de Beni pour le meurtre en mai d'un militant pro-démocratie. Le policier Ombeni est reconnu coupable pour la mort de Marcus Freddy Kambale, a déclaré le mouvement Lutte pour le changement, la Lucha. L'État est condamné à payer 100 000 dollars de dommages-intérêts. En République du Congo, plusieurs ONG ont demandé la libération et l'évacuation sanitaire de l'opposant Jean-Marie Mokoko, condamné à 20 ans de prison en 2018 et hospitalisé à Brazzaville depuis 2 semaines. Nous craignons pour sa santé parce que son pronostic vital est bien entamé, a estimé l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Le chef de l'armée somalienne, le général Odowa Youssouf Raj, est sorti indemne ce lundi à Mogadiscio d'un attentat à la voiture piégée visant son convoi et revendiqué par les Chebabs. Le kamikaze a ignoré les tirs de semonce des forces de sécurité qui l'ont alors visé, déclenchant l'explosion du véhicule, selon un responsable militaire. Un civil est mort et 6 autres personnes ont été blessées, dont 2 soldats.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de Covid-19 a fait au moins 569 000 morts dans le monde. Le point sur les dernières évolutions avec Eric Manirakiza.
L'Afrique du Sud réimpose un couvre-feu à partir de lundi et interdit à nouveau la vente d'alcool après une recrudescence des cas. Au Maroc, la ville de Tanger est reconfinée après l'apparition de nouveaux foyers de contamination. La justice espagnole a suspendu lundi le reconfinement à domicile des habitants de la zone de Lérida en Catalogne. La menace d'une 2e vague réelle a mis en garde lundi le ministre allemand de la Santé. Les maires de plusieurs grandes villes des États-Unis envisagent, réclament un reconfinement, mais des désaccords politiques entre les différentes juridictions empêchent une réponse unifiée et cohérente. La région Amérique latine et Caraïbes est devenue lundi la 2e région la plus touchée au monde, dépassant les bilans des États-Unis et du Canada, et se situe derrière l'Europe qui comptait plus de 200 000 morts lundi matin. En Australie, les habitants de Sydney sont priés de limiter les soirées festives suite à l'apparition d'un nouveau foyer dans un pub de la ville.
Par ailleurs, deux bases militaires américaines au Japon se sont confinées après une poussée des cas de coronavirus. Le gouvernement japonais a indiqué ce lundi que 62 cas de Covid-19 avaient été détectés ces derniers jours au sein des forces américaines stationnées à Okinawa. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Ikia Badou.
Le Soudan distribue des aides financières aux familles pour atténuer la crise économique. Le versement de ces fonds doit concerner à terme 80% des 42 millions d'habitants. Cette aide est financée par une partie des 1,8 milliard de dollars accordés en juin au Soudan par une quarantaine de pays pour soutenir la transition démocratique menacée par une grave crise économique accélérée par la pandémie de Covid-19. Au Kenya, même avant l'arrivée du virus à la mi-mars, les revenus du tourisme avaient chuté. Les annulations provenant de marchés cruciaux tels que la Chine, l'Europe et les États-Unis. Selon le ministère du Tourisme, le secteur a perdu 750 millions de dollars, soit environ la moitié des recettes totales en 2019. Le Kenya a annoncé la reprise des vols internationaux le 1er août, mais la haute saison est déjà passée. Le géant américain de l'Internet Google a annoncé un investissement de 10 milliards de dollars en Inde au cours des 7 prochaines années pour accélérer l'économie numérique dans ce pays de plus d'un milliard d'habitants.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le Cameroun décline l'offre faite par la CAF d'organiser le Final Four de la Ligue des Champions. L'annonce a été faite par la Fédération Camerounaise de Football à travers son président Seydou Mbombo Ndjoya.
En réponse à l'offre faite au mois de mai par l'instance fêtière du football africain pour l'organisation en Final Four de la Champions League édition 2020 au stade de Chapoma à Douala. J'ai fait connaître à la CAF que le gouvernement n'a pas marqué son accord pour l'accueil par le Cameroun des demi-finales et finales de cette prestigieuse compétition africaine en raison des risques sanitaires liés à la pandémie du Covid-19 et les incertitudes sur l'évolution à court terme de cette pandémie.
Seydou Mbombo Ndjoya, président de la Fédération camerounaise de football. Deux pays se proposent d'habiter le tournoi, l'Égypte et la Tunisie. Hicham Ben Omran, vice-président de la Fédération tunisienne, dit avoir saisi la CAF en proposant le stade olympique de Rades pour accueillir les matchs. Les deux demi-finales opposent le Raja de Casablanca aux Amalek d'Égypte et le Wydad de Casablanca à Al Ahly d'Égypte. Le Final Four de la Coupe de la Confédération aura lieu au Maroc. En Europe, le tribunal arbitral du sport autorise la participation de Manchester City aux prochaines Coupes d'Europe. Le club anglais avait été initialement condamné par l'UEFA à 2 ans de suspension pour manquement aux règles du fair play financier. Manchester City n'a pas déguisé ses contrats de sponsoring mais a échoué à coopérer avec l'UEFA, explique le TASS dans sa décision. Le club propriété des Émiratis est seulement condamné à verser une amende de 10 millions d'euros à l'UEFA au lieu des 30 millions d'euros initialement décidés en février par l'instance européenne du football qui accusait le club anglais d'avoir surévalué ses revenus publicitaires portant sur la période 2012-2016. Cette décision du TASS constitue donc un soulagement pour les citizens car les pertes financières encourues par une absence de la scène européenne auraient largement dépassé les 100 millions d'euros par an. Ici aux États-Unis, l'équipe de football américain des Redskins de Washington a confirmé qu'elle va changer son nom en raison de sa connotation raciste. Aujourd'hui, nous annonçons que nous allons abandonner le nom et le logo des Redskins. Des voix s'élevaient depuis longtemps pour demander à cette équipe du championnat de football américain de changer son nom et son logo. Des organisations amérindiennes réclamant l'abandon de cette appellation qu'elle qualifie de raciste. Daniel Snyder, avait toujours refusé, affirmant que ce surnom rendait hommage aux Amérindiens. Mais après la mort de l'Afro-Américain George Floyd fin mai, la pression, notamment économique, de la part de sponsors comme FedEx a encore augmenté autour des Redskins.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Mali, la situation reste tendue après un week-end de tensions et de violences à Bamako. Des manifestants réclamant la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta ont saccagé des édifices publics et bloqué des routes et des ponts dans la capitale. Les violences ont fait au moins 15 morts et plusieurs leaders de la contestation sont aux arrêts. Bagassikoura a joint Yaya Konaré, enseignant à l'université de Bamako.
Moi, je pense que Mali peut sortir de cette situation par un dialogue franc et certain. Moi, je pense que les différents protagonistes sont connus, les points à discuter sont connus. Donc, la solution, c'est entre les mains du président de la République lui-même. Donc, moi, je pense que à l'état actuel des choses, il doit accepter de s'asseoir, de discuter, de dialoguer avec ces gens-là pour trouver vraiment un point d'accord. Cet accord-là est éphémère, mais quand même, ça va permettre d'apaiser vraiment la situation de façon générale. La seule porte de sortie pour le Mali dans ces conditions-là, c'est le dialogue.
Oui, le dialogue, mais il y a aussi cette dissolution de la Cour constitutionnelle. Comment vous l'avez accueillie?
Bon, ça c'est un non-événement pour moi, parce que la Cour constitutionnelle, c'est qui? C'est Ibrahim Boubacar Keïta, c'est le président de l'Assemblée nationale, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Et le Conseil supérieur de la magistrature, c'est encore Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, pratiquement, les 9 qui vont être nommés là-bas, quelle que soit, comment dirais-je, leur qualité, ils auront affaire toujours à ces gens-là qui les ont mis sur place. Donc, ils ne pourront pas décider contre eux. Donc, si c'est pour dissoudre l'Assemblée nationale, Tembine quand même ne va pas nommer 3 juges là-bas pour s'auto-dissoudre. Et Ibrahim Boubacar Keïta, on sait quel a été son rôle dans l'élection de Moussa Tembine là-bas. Donc c'est fait à dessein. Et ce n'est pas ces 3 juges nommés non plus qui vont contribuer à démolir ce qu'Ibeka a mis en place. Donc pour moi, on revient à la case de départ, hein, la dissolution de la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle décide du sort de l'Assemblée nationale. Bon, c'est pour ne rien faire, pour ne rien dire pratiquement. Voilà, c'est un non-événement pour moi.
Alors, il y a eu tous ces événements depuis vendredi avec au moins 15 morts. Est-ce que cela ne va pas compliquer le dialogue dont vous parlez?
Bon, après tout malentendu, tout conflit, toute guerre, ça finit autour d'une table de négociation, hein? Donc, j'ai beaucoup de respect pour ces morts-là, car je m'incline devant la mémoire de ces morts, mais quand même, on va concéder, on va faire des concessions pour pouvoir s'accepter et s'asseoir autour du table.
Yaya Konaré est enseignant à l'université de Bamako.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, les appels au calme et au dialogue se multiplient au Mali après les violences meurtrières du week-end. La troisième manifestation organisée par le mouvement du 5 juin contre le pouvoir a dégénéré, faisant au moins 11 morts et plus de 100 blessés. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé la dissolution de la Cour constitutionnelle et ses adversaires lui demandent d'aller plus loin en organisant des élections législatives partielles. Quelle solution à la crise politique au Mali? Nous discuterons de cela avec nos invités ce jeudi 16 juillet 2020 à 19h temps universel sur VOA et VOA.
Le vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan, a démissionné
Ancien membre du PDCI, l'ex-parti au pouvoir, il était considéré comme un proche du président Alassane Ouattara. Cette démission survient quelques jours après la mort du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était le candidat désigné du RHDP, le parti de M. Ouattara, à la présidentielle d'octobre prochain. Éric Manirakiza a joint à Abidjan l'analyste politique André Siver-Conan.
La démission du vice-président Daniel Kablan-Denka intervient dans un contexte particulièrement trouble pour le pouvoir d'Alassane Ouattara. Il y a eu cette tragédie qui s'est abattue sur la Côte d'Ivoire et principalement et particulièrement sur le RHDP des partis présidentiels, à savoir la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était candidat pour le compte du parti présidentiel à la présidentielle d'octobre 2020. Ensuite, on assiste à une sorte de cascade de démissions au sein du parti présidentiel, la dernière donc étant celle de Daniel Kablan-Denka. C'est une décision qui ne surprend pas trop les Ivoiriens, d'autant que depuis quelques jours, la rumeur de cette démission était brillante sur les réseaux sociaux et dans les salons. Mais elle a été actée 5 mois plus tard, c'est-à-dire que la décision a été prise en fait depuis 27 février par le concerné lui-même. Du coup, on est dans une sorte de crise de fin de mandat et qui n'augure rien de bon pour Alassane Ouattara, surtout que en face, il y a une opposition qui semble déterminée à bouter son pouvoir à gagner la présidentielle d'octobre 2020 avec une alliance entre Henri Konabédié et Laurent Gbagbo-Tchiret en liberté conditionnelle à Bruxelles.
Monsieur Kablan, il est issu du PDCI, mais un grand allié à Monsieur Ouattara. Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ce divorce?
Alors, plusieurs choses, à mon avis, je peux me tromper. La première, c'est que tout part donc de la modification de la constitution en 2016, voulue par Alassane Ouattara, qui introduit dans cette constitution donc une clause visant à sauter l'âge plafond pour être candidat à la présidentielle. Nous sommes en 2016 et dans les projections donc d'Alassane Ouattara, Daniel Kablan-Denka, issu du PDCI et son fidèle ami depuis des décennies, eh bien, Daniel Kablan-Denka partait un peu comme le dauphin putatif de Alassane Ouattara et d'Henri Konabédié, parce qu'à cette époque, les deux personnalités s'entendaient très bien. Il semblait être le candidat idéal pour le RHDP, qui englobait donc le PDCI, notamment le PDCI et le RDR d'Alassane Ouattara. Et puis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, au point où M. Daniel Kablan-Denka n'était plus la carte majeure d'Alassane Ouattara, qui a brandi de ce fait une autre carte, qui était celle de celui qui était donc son secrétaire général à présent jusque-là, Amadou Gon Coulibaly, qui a commencé à émerger au point où il a totalement mis sous les peignoirs le vice-président de la République, qui était Daniel Kablan-Denka.
André Siver-Conan, journaliste et analyste politique à Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Avec plus de 3 millions de cas et plus de 137 000 décès, le coronavirus fait payer un lourd tribut aux États-Unis. Alors que le nombre de nouvelles infections ne cesse d'augmenter, les Américains sont encouragés à porter le masque en public pour permettre le ralentissement de la propagation de la maladie. Ken Farabo de la Voix de l'Amérique fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
À Elkhart Lake, dans le Wisconsin, les amateurs de courses de voitures se sont réunis par milliers pour le premier événement public depuis que la pandémie de coronavirus a fermé les circuits automobiles à travers tout le pays. Le port du masque est encouragé, mais pas obligatoire. Matt Berg est un fan de la Formule 1.
C'est l'une des meilleures courses du monde. Donc ils prennent des précautions, tout le monde prend des précautions. Je n'avais aucune inquiétude à l'idée de sortir.
Pareil pour Jim Cossard, venu assister à la course.
Tout le personnel, les pilotes et tout le monde portent des masques, mais je ne pense pas que les fans soient aussi bons à ce sujet.
En Floride, l'un des États ayant enregistré une fulgurante augmentation de nouveaux cas de COVID-19, le fameux parc de Disney a rouvert ses portes à Orlando pour la première fois depuis des mois. Le port du masque est obligatoire dans la plupart des zones de cet énorme parc d'attractions. L'amiral Brett Giroir est sous-secrétaire américain à la santé.
Pour les données dont nous disposons actuellement, il n'y a pas d'inconvénient à porter un masque.
Il souligne que les masques pourraient empêcher la propagation des virus, particulièrement pour les régions où la contagion est en hausse.
Il est vraiment essentiel de porter un masque en public. Nous savons que cela va réduire la propagation de particules à d'autres personnes.
Après des semaines de résistance, le président Donald Trump a porté un masque en public pour la première fois lors d'une visite à l'hôpital militaire Walter Reed dans la banlieue de Washington, D.C.
Je pense que lorsque vous êtes à l'hôpital, dans cet environnement particulier où vous parlez à beaucoup de soldats et à des personnes qui, dans certains cas, viennent de quitter la table d'opération, je pense que c'est un grand jour pour porter un masque. Je n'ai jamais été contre les masques, mais je pense qu'il y a un moment et un lieu pour cela.
À Londres, lors d'une séance de questions et réponses en ligne, le Premier ministre britannique Boris Johnson a évoqué la possibilité d'instaurer des restrictions plus drastiques dans toute la Grande-Bretagne, alors qu'une nouvelle loi en Écosse rend les masques obligatoires dans les magasins.
Le masque facial, oui, nous pensons de plus en plus que nous devons insister là-dessus, dans les endroits confinés, où vous rencontrez des gens avec lesquels vous n'entrez pas normalement en contact, comme dans les transports et magasins. Porter un masque facial.
En somme, tout le monde recommande le port du masque, mais ce n'est pas la seule mesure pour stopper la propagation du coronavirus. Amiral Brett Giroir, sous-secrétaire à la santé.
Il faut vraiment fermer les bars. Il faut diminuer la capacité des restaurants. Il faut se distancer physiquement. Il faut que les gens portent un masque en public. C'est absolument essentiel. Et vous devez avoir une bonne hygiène des mains.
C'est une course contre la montre qui est engagée ici aux États-Unis dans l'espoir qu'un jour, on pourra enfin dire qu'aucun nouveau cas n'a été signalé dans tout le pays.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Libérer les citoyens américains, injustement détenus contre leur gré par des gouvernements étrangers, reste une haute priorité pour les États-Unis. Plus de 40 otages et détenus ont été ramenés au pays depuis la prise de fonction du président Donald Trump. Au mois de juin, les Américains ont célébré la libération de l'ancien combattant des Marines, Michael White, d'une prison iranienne. Monsieur White a été injustement emprisonné en Iran pendant presque 2 ans. Les États-Unis ont négocié et obtenu sa libération avec l'aide notable du gouvernement suisse. Dans le cadre de l'accord entre les parties, ils ont abandonné les chefs d'accusation retenus contre un dermatologue de Floride, Majid Tahiri, pour violation des sanctions américaines contre l'Iran. Lors d'un point de presse, le représentant spécial américain pour l'Iran, Brian Hook, a déclaré qu'un tel succès sur le plan diplomatique renforce la confiance que les États-Unis et l'Iran sont à même de négocier des accords allant dans le sens des intérêts des deux pays. Il est clair que si nous pouvons parvenir à un accord complet, cela avancerait les intérêts du peuple iranien. Les Iraniens sont fatigués de voir leur richesse nationale gaspillée dans des endroits comme d'autres pays du Moyen-Orient et aussi le Venezuela. M. Brian Hook a souligné les effets bénéfiques qu'un nouvel accord aurait pour l'Iran, notamment la levée des sanctions et le rétablissement des relations diplomatiques et économiques. Le représentant spécial Rook a noté que l'Iran a jusqu'ici refusé la possibilité d'approfondir le dialogue. De ce fait, les États-Unis poursuivent une politique en trois volets en direction du régime iranien. Pression économique maximum, isolement diplomatique et menace crédible des recours à la force militaire pour défendre les intérêts américains. Cette politique, a déclaré M. Rook, a privé les dirigeants iraniens de fonds pour les activités nocives. C'est aussi le moyen d'avancer vers les objectifs du président de les amener à table des négociations.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.